Bonjour à tous, Yacouba Ouidraougou avec vous, bienvenue dans le monde aujourd'hui. Au sommaire en cette matinée du vendredi 21 février, l'armée congolaise exhorte les soldats en fuite dans le nord Kivu, dans l'est de la RDC, à rejoindre leurs unités pour contrer l'avancée des rebelles du M23. Les États-Unis ont annoncé des sanctions financières contre James Kabarebe, ancien ministre rwandais de la Défense, accusé d'orchestrer le soutien des troupes rwandaises au M23. Kigali dénonce des sanctions injustifiées et infondées.
Les sanctions américaines, maintenant, qui viennent d'être déclarées contre des responsables du Rwanda, auront beaucoup plus d'effet. Mais si maintenant les États-Unis basculent, on entre dans une autre phase, quoi.
Interview à suivre dans la partie magazine de cette édition. Le chef d'État sud-africain Cyril Ramaphosa plaide pour le multilatéralisme et le droit international. C'était hier lors d'une réunion des ministres des Affaires étrangères du G20 à Johannesburg. Le Conseil de l'Europe appelle les États à reprendre le flambeau de l'USAID après la suspension des financements de l'agence américaine en sport. Les oppositions des quarts de finale des compétitions africaines interclubs sont connues. Le tirage au sort a eu lieu hier à Doha au Qatar. Les détails dans une dizaine de minutes, juste après l'économie. Mais d'abord, le journal. En République démocratique du Congo, l'armée exhorte publiquement les soldats en fuite dans la province orientale du Nord Kivu à rejoindre leurs unités pour poursuivre le combat pour contrer l'avancée des rebelles du M23. Jacques Aristide.
Je demande à tous les militaires qui ont déserté le front et traînent à Lubero et ses environs qu'ils retournent auprès de leur chef, a déclaré le colonel Makazuke, un porte-parole de l'armée dans la région, dans un message audio diffusé hier par plusieurs radios locales. Un militaire ne fuit pas seul, mais en groupe. Un militaire ne peut pas abandonner ses compagnons, son supérieur hiérarchique, a poursuivi le colonel Azuki. À Lubero, une localité vers laquelle progresse le M23, des habitants terrorisés ont signalé des soldats congolais en débandade, ouvrant le feu et se livrant à des pillages. Cette ville est située à 250 km au nord de Goma, capitale du Nord Kivu. Accompagnés de chars, des militaires ougandais se sont déployés à Lubero et patrouillent pour assurer la sécurité, a rapporté un journaliste local. Alors que les rebelles du M23, épaulés selon l'ONU par des troupes rwandaises, ne rencontrent plus qu'une faible résistance depuis qu'ils ont pris Goma il y a près d'un mois, l'armée congolaise a tenté de convaincre les fuyards qu'elle reprenait pied. « Nous avons sérieusement frappé l'ennemi qui est en train de fuir. Pourquoi déserter? Il nous revient de rejoindre nos positions et travailler », a conclu le colonel Azuki.
Les États-Unis ont annoncé hier des sanctions financières contre un haut responsable rwandais, l'ancien ministre de la Défense, James Kabarebe, accusé d'orchestrer le soutien des troupes rwandaises au groupe armé antigouvernemental M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. Ces sanctions concernent aussi le porte-parole politique des rebelles du M23, Lawrence Kanyuka. Le point avec Eddie Sangou.
Le communiqué du ministère américain des Finances indique que James Kabarebe, actuel ministre pour l'intégration régionale du Rwanda, est une personnalité politique et militaire des premiers plans qui a joué un rôle essentiel dans les conflits en RDC ces trois dernières décennies. James Kabarebe était à la tête des forces rwandaises en RDC entre 1996 et 1998. Il a ensuite été ministre de la Défense entre 2010 et 2018, puis conseiller à la sécurité du président Paul Kagame. Dans un communiqué séparé, le ministère américain des Affaires étrangères rappelle que les États-Unis appellent les responsables rwandais à mettre fin à leur soutien au M23 et à respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC. Le porte-parole politique du M23, Lawrence Kanyuka, qui détient une société enregistrée au Royaume-Uni et une autre en France, est aussi sanctionné. Leurs avoirs seront gelés et ils ne pourront plus faire des transactions en dollars américains.
L'ONU a lancé un appel aux dons de plus de 900 millions de dollars pour aider 3,9 millions de personnes cette année en Haïti, pays ravagé par la violence des gangs. Ces derniers jours, des attaques se sont encore intensifiées dans la capitale Port-au-Prince et des affrontements ont été rapportés entre les forces de l'ordre et des hommes armés. La violence armée a engendré des souffrances incommensurables, en particulier aux femmes et aux enfants, a commenté le Bureau des affaires humanitaires de l'ONU, OCHA, dans son plan humanitaire pour 2025 publié jeudi.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le chef d'État sud-africain Cyril Ramaphosa a plaidé jeudi pour un multilatéralisme et le droit international lors d'une réunion des ministres des Affaires étrangères du G20. Premier pays du continent à présider le G20, l'Afrique du Sud a accueilli jeudi de nombreux diplomates sous le rythme de danse zoulou, une réunion boudée par le chef de la diplomatie américaine. Les précisions de John Lindon.
Il est essentiel que les principes de la Charte des Nations Unies, le multilatéralisme et le droit international restent au centre de tous nos efforts. Ils doivent être le ciment nous unissant, a affirmé Cyril Ramaphosa avant de citer les guerres et conflits en Ukraine, au Moyen-Orient et en République démocratique du Congo. Les tensions géopolitiques, le changement climatique et les pandémies aussi menacent une coexistence mondiale déjà fragile, a-t-il averti, face à une assistance manquante de consensus. Des ministres des Affaires étrangères des pays des BRICS proches de Pretoria ont fait le déplacement, à commencer par le russe Sergueï Lavrov ainsi que ses homologues chinois et indiens. À noter aussi les présences du français Jean-Noël Barrot, du britannique David Lammy ou celle de la diplomate en chef de l'Union européenne Kaja Kallas. L'absence de Marco Rubio représente un camouflet pour l'Afrique du Sud, estime Brial Singh, chercheur à l'Institut pour les études des sécurités à Pretoria. En son absence, c'est la chargée d'affaires de l'ambassade américaine à Pretoria, Dana Brown, qui fait office de représentante des États-Unis. Le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent n'ira pas à la réunion des ministres des Finances du G20, programmée au Cap mercredi et jeudi prochain, en raison d'obligations à Washington, a-t-il annoncé.
Le Conseil de l'Europe appelle les États à reprendre le flambeau de l'USAID après la suspension des financements de l'agence américaine. Les pays européens doivent combler le vide laissé par le gel de l'aide américaine, a plaidé jeudi le Conseil Alexandrine Holoyon.
Le commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, Michael O'Flaherty, a estimé que les 46 États membres du Conseil de l'Europe devaient redoubler d'efforts pour défendre les principes de cette organisation en réponse à la décision du président des États-Unis, Donald Trump, de suspendre les financements de l'USAID. La suspension de l'aide américaine a un impact négatif sur des millions de personnes dans le monde, y compris en Europe, a déclaré le commissaire dans un communiqué. Selon lui, environ 80% des acteurs de la société civile travaillant en Europe orientale et dans les Balkans occidentaux sont directement affectés par le gel de l'USAID et certains ont perdu la quasi-totalité de leur financement. O'Flaherty s'inquiète particulièrement des effets sur les défenseurs des droits de l'homme, les médias indépendants et les organisations internationales. En 2023, l'Europe et l'Eurasie ont reçu 17,2 milliards de dollars de la part de l'USAID, a rappelé le commissaire, soit environ 40% du budget total de l'agence. Une part importante de ces fonds a été consacrée aux opérations en Ukraine, a-t-il précisé.
Le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, a justifié les premiers pourparlers bilatéraux menés avec la Russie. Il a assuré que l'objectif principal de Washington était de vérifier si Moscou était sérieux quant à la perspective de mettre fin à la guerre en Ukraine. La seule chose sur laquelle nous nous sommes accordés, c'est que nous allons parler de paix, a-t-il poursuivi après sa rencontre avec une délégation russe dont son homologue Sergueï Lavrov en début de semaine en Arabie Saoudite. Pour Rubio, le rétablissement des relations avec la Russie, quasiment gelée depuis l'invasion russe de l'Ukraine le 24 février 2022, est nécessaire pour espérer parvenir in fine à mettre un terme au conflit. Les sénateurs américains ont entamé hier un examen du texte budgétaire proposé par les Républicains. Le document prévoit une hausse potentielle des dépenses publiques de plus de 300 milliards de dollars, allant principalement à la sécurité aux frontières, au Pentagone ou encore à la politique énergétique des États-Unis. En vertu des règles du Congrès américain, les démocrates ont la possibilité d'ajouter de nombreux amendements à ce texte budgétaire et en l'absence de vote électronique au Sénat, chaque amendement prend un certain temps à être adopté ou rejeté. Que s'est-il réellement passé le 21 février 1965 lorsque Malcolm X, icône du mouvement pour les droits civiques, est criblé de balles à New York? 60 ans après son assassinat, sa famille assure disposer d'éléments nouveaux lui permettant d'assigner en justice la police de New York, le FBI ou encore la CIA. Le dossier doit entrer dans le vif du sujet début mars devant un tribunal de Manhattan. En novembre 2024, la famille de Malcolm X a engagé des poursuites au civil, réclamant 100 millions de dollars aux forces de l'ordre et aux agences fédérales qui ont, selon elle, joué un rôle à divers degrés dans son assassinat. Et puis la Corée du Sud a demandé à Washington de l'exempter des droits de douane prévus par l'administration américaine sur l'acier et l'aluminium. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Les nouvelles économiques à présent et nous retrouvons Alexandrine Rolognon pour la Minute Éco.
La consommation d'électricité en Afrique devrait augmenter de 5,2% en moyenne par an entre 2025 et 2027, soit un rythme supérieur à la moyenne mondiale. Selon un rapport publié par l'Agence internationale de l'énergie, la croissance de la consommation d'électricité demeure freinée par une capacité de production insuffisante, notamment en Afrique subsaharienne. Le co-directeur général de Netflix, Ted Sarandos, a annoncé jeudi à Mexico que la plateforme de streaming dont le siège est à Los Angeles investirait $1 milliard au Mexique en pleine tension commerciale avec Donald Trump. Le responsable de Netflix a rappelé que la plateforme avait installé en 2020 à Mexico son siège pour l'Amérique latine. La bourse de New York a ouvert en baisse jeudi, lestée par les prévisions prudentes du géant américain Walmart, ému par les incertitudes quant à la politique commerciale de Donald Trump. Dans les premiers échanges, le Dow Jones reculait de 0,34%, l'indice Nasdaq perdait 0,13% et l'indice élargi S&P 500 lâchait 0,20%.
Sans plus tarder, l'actualité sportive avec Eric Manirakiza. Bonjour Eric.
Bonjour Yacouba.
On connaît les oppositions des quarts de finale des compétitions africaines interclubs. Le tirage au sort a eu lieu hier à Doha au Qatar et nous commençons avec la Ligue des champions CAF.
Le champion en titre Al Ahly d'Égypte affrontera Al Hilal du Soudan dans ce qui promet d'être une rencontre à enjeu élevé. Le Pyramide FC, l'équipe égyptienne qui a impressionné par ses prouesses offensives, affrontera le géant marocain AS FAR. Un autre duel alléchant opposera les Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud à l'Espérance sportive de Tunisie. Le dernier quart de finale verra le MC Alger d'Algérie, qui n'a encaissé que 2 buts lors de la phase de groupe, affronter les Orlando Pirates d'Afrique du Sud. Tous les matchs des quarts de finale se joueront en 2 manches et le match aller étant prévu le 1er avril et le match retour une semaine plus tard le 8 avril. Les combinaisons des demi-finales ont également été déterminées et les rencontres suivront un format similaire, les vainqueurs se qualifiant pour la prestigieuse finale en juin.
Duel alléchant également en Coupe de la Confédération.
Un duel nord-sud ouvrira les débats, le double champion Zamalek d'Égypte reprenant la défense de son titre contre le Stellenbosch FC d'Afrique du Sud qui fait ses débuts dans le tournoi. La SEC Mimosa, qui aspire à nouveau à la gloire continentale, affrontera le double champion marocain RS Barkhane. Un derby algérien explosif sera également au menu. Le SC Constantine, qui fait ses débuts en phase à élimination directe, affrontera une équipe de l'USM Alger. La dernière affiche des quarts de finale opposera les Égyptiens d'Al Masry à une équipe de Simba de Tanzanie en forme qui ambitionne de dépasser le stade des quarts de finale pour la première fois depuis la saison 2021-2022. Le tirage au sort des demi-finales de la compétition a également été effectué. L'affiche est prévue entre le 2 et 9 avril 2025.
Et pour finir, parlons du droit télé. DAZN réclame 573 millions d'euros à la Ligue française.
La plateforme britannique de streaming DAZN, principal diffuseur du championnat de France de Ligue 1, réclame 573 millions d'euros à la Ligue de football professionnel devant le tribunal de commerce de Paris, selon une source proche du dossier confirmant une information de plusieurs médias. DAZN diffuse 8 rencontres de Ligue 1 par journée de championnat contre 400 millions d'euros annuels jusqu'en 2029 et se plaint notamment des conditions d'exploitation difficiles liées au piratage et du manque de coopération de certains clubs pour mettre en valeur le produit Ligue 1 qu'elle vend à ses abonnés. DAZN avait évoqué le chiffre de 500 000 abonnés à sa plateforme en France, bien loin de 1,5 million espéré. La société britannique et la LFP disposent chacune d'une clause leur permettant de rompre leur contrat en décembre 2025.
Merci Eric.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Yacouba Ouidraogo, toujours avec vous pour vous présenter les dossiers du jour. Accusé d'orchestrer le soutien des troupes rwandaises au M23 dans l'est de la République démocratique du Congo, le ministre rwandais pour l'intégration régionale James Kabarebe est visé par des sanctions de Washington. La porte-parole du gouvernement rwandais Yolanda Makolo a dénoncé, selon elle, des sanctions injustifiées et infondées. Pour une analyse, Eric Manirakiza a joint à Bruxelles la journaliste Colette Brackman, spécialiste de la région des Grands Lacs.
Les sanctions américaines, maintenant, qui viennent d'être déclarées contre les responsables du Rwanda, auront beaucoup plus d'effet, parce que le Rwanda pouvait jusqu'à présent compter plus ou moins sur l'Europe, qu'on se montrait assez timide, avec le soutien de la France ou du Portugal. Mais si maintenant les États-Unis basculent, on entre dans une autre phase, quoi.
Il y a eu des décisions de la sous-région qui ont été même saluées par les autorités rwandaises, qui peut avoir, disons, les moyens pour les mettre en application.
Ah, ça, c'est évidemment la grande question. Je pense que l'Union africaine a plus de titre privilégié toujours ce qu'elle appelle le dialogue. C'est évidemment la meilleure solution, mais pour l'instant, Kinshasa ne veut absolument pas entendre parler de dialogue. Il estime qu'ils sont allés jusqu'au bout et que ça n'a rien donné. Donc, ils sont terriblement très intransigeants. Et par ailleurs, le M23 continue sa progression militaire au-delà de la ville d'Ouvira au sud Kivu. Il continue, donc je ne vois pas très bien où ça pourrait se situer le dialogue. Mais moi, j'ai l'impression que maintenant, un joueur beaucoup plus lourd, c'est-à-dire le shérif américain, est entré en jeu. On va voir ce que ça va donner.
Kigali a averti que les sanctions ne pourront pas régler ce conflit. Comment vous voyez cette perspective?
Oui, il y aura des sanctions sur cette progression territoriale. J'ai l'impression qu'il y aura aussi des pressions sur Kinshasa pour que Kinshasa maîtrise complètement, donne des garanties de maîtrise des forces démocratiques pour la libération du Rwanda, les fameux FDLR qui sont plus vieux d'il y a 30 ans, mais qui sont des forces nouvelles, mais qui partagent la même idéologie. Et là, ça, c'est quelque chose qui est incontournable pour le Rwanda. Il n'y a pas matière à transiger, parce que ce sont des gens qualifiés qui sont de génocidaires, qui menacent la sécurité du Rwanda. Et là, l'enjeu est vital, pas seulement pour Kagame, mais pour la paix publique du Rwanda. Et là, ils ne vont pas transiger. Donc, il faudrait qu'Kinshasa prenne ses distances avec ces gens-là et participe à une sécurisation de la frontière de son voisin rwandais. Ça me paraît évident.
Et comment voyez-vous la suite dans cette guerre?
Et la suite, je pense que l'offensive rwandaise, disons l'offensive du M23, je ne suis pas sûre qu'ils vont aller militairement jusqu'à Kinshasa, mais encore que. Mais le régime Tshisekedi lui-même est aussi affaibli. Il est affaibli par les défaites successives de son armée. Je pense qu'il a le droit international avec lui lorsqu'il défend l'intangibilité des frontières et l'unité du pays. Donc là, on entre dans les incertitudes, aussi bien à Kigali qu'à Kinshasa.
Colette Brackman, spécialiste de la région des Grands Lacs. Lors de la rencontre des ministres des Affaires étrangères du G20 à Johannesburg, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a cité le conflit dans l'est de la République démocratique du Congo, où le M23 qui contrôle Goma et Bukavu poursuit son offensive, tuant et blessant des civils et provoquant des déplacements massifs de population. Nathalie Barge.
À l'ouverture de la réunion, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a appelé au respect du multilatéralisme dans l'ordre mondial.
En tant que G20, il est essentiel que les principes de la Charte des Nations Unies, le multilatéralisme et le droit international restent au centre de tous nos efforts. Ils devraient être le ciment qui nous unit.
Après s'être emparé de Goma au nord Kivu le 26 janvier, le M23 a pris dimanche le contrôle de Bukavu au sud Kivu. Près de 200 personnes blessées lors des combats sont prises en charge par le CICR à l'hôpital provincial de Bukavu. Euphrasie Moulachi a été touchée par une balle samedi soir, la veille de la prise de Bukavu par les rebelles.
J'étais chez moi le 15 février à 19h. Je ne sais pas d'où est venue la balle perdue, mais elle a traversé le toit de la maison et m'a atteint l'estomac. J'ai été emmenée à la clinique et le lendemain matin, j'ai été transférée ici.
Joseph Abamung a été poursuivi par des rebelles du M23 qui ont alors tiré sur un groupe de personnes. Deux d'entre elles ont été tuées tandis que lui blessé s'est évanoui.
Ils sont partis en pensant que j'étais mort aussi, car j'étais resté allongé par terre à saigner jusqu'au matin. Quand la Croix-Rouge est venue récupérer les corps, ils ont remarqué que j'étais toujours en vie malgré la balle dans la poitrine. Ils m'ont amené ici à l'hôpital, j'étais inconscient et maintenant je suis là.
Parmi ces patients, 44 ont été blessés lors de l'offensive du M23 pour le contrôle de Bukavu. Pour Daniel Makutano, responsable du programme chirurgical, le plus grand défi est l'approvisionnement en médicaments suite au pillage de l'entrepôt du CICR à Goma.
La situation actuelle au niveau de l'hôpital par rapport aux blessés par les armes, nous avons 181 patients hospitalisés. Mais particulièrement pour ceux qui sont arrivés et qui sont liés aux événements qui se sont déroulés en ville de Bukavu, nous avons reçu au total 44 blessés. Et ils sont en majorité masculins. Et nous avons noté aussi 3 enfants de moins de 15 ans.
Depuis fin janvier, les combats ont fait des milliers de morts dans la région des Grands Lacs, laissant craindre une répétition de la deuxième guerre du Congo, ayant impliqué plusieurs pays africains entre 1998 et 2003. Ces conflits ont déjà entraîné la mort de millions de personnes par la violence armée et ses corollaires, comme la maladie et la malnutrition.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique en RDC sur 97.4 à Bukavu.
Des pays africains confrontés au manque d'emplois et à un taux de chômage croissant envoient leurs ressortissants en Europe ou au Moyen-Orient pour trouver de l'emploi et combler le déficit démographique de certains de ces pays. Au Kenya, les détracteurs de l'initiative migratoire accusent le gouvernement de promouvoir un commerce d'esclaves, des rapports faisant état de mauvais traitements infligés aux migrants dans certains pays du Moyen-Orient, où des millions d'Africains travaillent déjà, ont également alimenté le scepticisme. Alexandrine Holoyon.
Ils font la queue par centaines pour rencontrer les recruteurs dans les écoles des villes de province et les salles de convention des grandes villes, certains munis de diplômes d'études supérieures, d'autres n'ayant qu'un niveau d'études primaires à leur actif. Tous espèrent décrocher l'un des milliers d'emplois que le gouvernement kényan entend pourvoir cette année dans le cadre de l'une de ses initiatives les plus ambitieuses en matière d'emploi.
Cela fait 20 ans que je cherche un emploi et que j'essaie de trouver n'importe quel emploi qui ne consiste pas à vendre des légumes. J'ai postulé pour un emploi dans le domaine de la sécurité en Arabie Saoudite et on m'a offert cette chance là-bas. Je suis donc reconnaissante.
Vous l'aurez compris, ces emplois ne se trouvent pas au Kenya. Ils se trouvent dans des pays riches d'Europe, du Moyen-Orient et d'ailleurs, où les autorités espèrent que les jeunes Kenyans pourront acquérir des compétences et des revenus qui stimuleront l'économie nationale.
Nous avons réalisé que nous disposions d'une ressource très importante, les ressources humaines, et que nous pouvions exporter notre main-d'œuvre et gagner ainsi beaucoup d'argent. Cela résout deux problèmes pour nous. Premièrement, le taux de chômage élevé peut être combattu parce que nous avons plus de personnes qui sortent de l'université avec des diplômes, des ingénieurs, des médecins, des infirmières, des journalistes, et qu'il n'y a de postes disponibles à pourvoir. Et deuxièmement, nous sommes en mesure de fournir des emplois aux pays étrangers qui ont besoin de cette main-d'œuvre et, en retour, nous recevons beaucoup de devises étrangères dans notre pays ou nous recevons des envois de fonds dans un pays qui nous aide vraiment à stabiliser notre taux de change.
L'envoi de travailleurs à l'étranger est au cœur des stratégies de développement de pays asiatiques comme les Philippines et le Bangladesh depuis des décennies. Mais cette approche n'a pas été largement adoptée en Afrique subsaharienne, où des pays comme le Kenya ont été accusés par des citoyens frustrés de se soustraire à leur responsabilité de créer des emplois dans leur pays. Cette situation commence à changer.
Alors que les pays du monde entier qui vieillissent rapidement cherchent des travailleurs pour maintenir leur économie à flot, certaines nations africaines, qui n'ont pas assez d'emplois pour leur population en croissance rapide, prennent des mesures pour en tirer parti. L'Allemagne a signé un accord avec le Kenya en septembre dernier pour assouplir certaines conditions imposées aux employeurs désireux d'importer des travailleurs kényans qualifiés.
La connaissance et la conscience du fait que le manque de main-d'œuvre qualifiée est désormais un facteur qui affecte la société dans son ensemble gagne de plus en plus du terrain. Je vais vous donner un exemple. Nous avons des restaurants et des hôtels en Allemagne qui ferment certains jours de la semaine simplement parce qu'ils n'ont pas de serveurs, de chefs ou d'experts en hôtellerie.
Malgré cela, cette stratégie n'est pas sans risque, notamment en raison de la montée des réactions contre l'immigration dans de nombreux pays européens et aux États-Unis. Dans les pays de départ comme au Kenya, le gouvernement est accusé de promouvoir un commerce d'esclaves. De nombreux Kenyans craignent également de perdre les compétences dont ils ont besoin dans leur pays. Dans le secteur de la santé, par exemple, le Kenya dispose de moins d'un tiers des 44,5 agents de santé pour 10 000 habitants, recommandés par l'Organisation mondiale de la santé, selon un rapport du ministère du Travail datant de 2023.
L'inflation aux États-Unis a augmenté en janvier, les prix des denrées alimentaires, de l'essence et du logement, entre autres, ayant continué à augmenter. La correspondante de la VOA, Veronica Balderas Iglesias, s'est entretenue avec des économistes sur ce que l'administration Trump peut faire pour faire baisser les prix. Ici, Lionel Gaïma.
L'inflation aux États-Unis n'est pas encore maîtrisée. L'indice des prix à la consommation a augmenté de 3% en janvier par rapport à l'année précédente, selon le dernier rapport du ministère américain du Travail. D'après les économistes, plusieurs facteurs sont à l'origine de cette hausse. Alison Schrager travaille au Manhattan Institute. Elle s'est exprimée via Skype.
Le coût du logement continue d'augmenter, les services restent chers, les prix des biens ont baissé en grande partie grâce à la reprise après la pandémie et cette progression s'est largement arrêtée.
Edmond Berisha, lui, est professeur associé d'économie à la Montclair State University. Il s'est exprimé via Skype.
Nous nous en sortons plutôt bien en termes de taux de chômage, qui signifie que les gens travaillent, qu'ils gagnent de l'argent et que lorsqu'ils le font, ils dépensent. Et ces dépenses élevées maintiennent les prix à un niveau élevé.
Bien que les analystes affirment qu'il a hérité d'une économie globalement stable, le président Donald Trump rejette la responsabilité de l'inflation sur son prédécesseur, Joe Biden.
C'est Biden qui en est à l'origine. Pendant 4 ans, je n'ai pratiquement pas connu d'inflation. Alors je prends le relais.
Selon l'économiste Alison Schrager, certaines mesures proposées par l'administration Trump pourraient soutenir l'économie. Alison Schrager.
Les réductions de l'impôt sur les sociétés, une éventuelle réforme fiscale plus poussée et une partie de la déréglementation stimuleront également l'économie.
Les consommateurs ne devraient pas être soulagés en ce qui concerne les taux d'intérêt. Mais d'autres mesures peuvent être prises pour réduire le coût de la vie, selon les experts. De nouveau, l'économiste Edmond Berisha via Skype.
Vous voulez soutenir le marché libre autant que vous le pouvez. L'autre chose est que nous voulons aussi stimuler la production.
Berisha a souligné que l'inflation est un phénomène mondial et que, comparé à d'autres pays, l'économie américaine, même avec une croissance modeste de l'emploi en janvier, reste en bonne santé.
Rejoignez-nous chaque vendredi à 19h30 TU dans l'Amérique et vous. L'Amérique et vous, explorez les liens sociopolitiques et culturels entre l'Amérique et l'Afrique. L'Amérique et vous, l'émission qui réunit les deux continents dans un échange vibrant d'idées et de perspectives. Participez à la conversation sur les moyens de renforcer les liens entre l'Afrique et l'Amérique.
C'est ici que s'achève cette édition du Monde aujourd'hui. Merci de rester fidèle au programme de VOA Afrique. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Au micro, Yacouba Ouidraogo, Michel Joseph à la réalisation. Ainsi va le Monde aujourd'hui. L'info continue sur voafrique.com ainsi que sur nos pages Facebook, YouTube, X et Instagram. Je vous souhaite une excellente journée en compagnie des programmes de VOA Afrique.